Rebonjour, vous êtes dans une émission spéciale de La Vie des Livres. Nous sommes toujours en compagnie de plusieurs conteurs et conteuses. Et donc, il y avait Manuela Yapas en première heure, Jean-Yves Vincent, Liliane Tillois et Christophe Grimompon. Et bien, en deuxième heure, vous retrouverez Caroline Dewell, Mathilde Van der Rusten, Fabien Delorme et on espère Florence D'Argent qui devrait arriver d'ici peu. Elle a peut-être des soucis sur la route, voilà. Et donc, encore une heure d'histoire et je me tourne maintenant vers une conteuse qui s'appelle Caroline Dewell. Bonjour Caroline.
Bonjour Christophe.
Alors, toi tu viens d'Orchy, dans le Nord. Et je t'invite donc à nous raconter ton histoire.
Alors, mon histoire, c'est l'histoire de Gérald. Et Gérald, comment dire, il faisait pas vraiment rêver en fait. Gérald, c'était le pire chevalier qu'on puisse rencontrer. Son cheval, un vieux cheval brun efflanqué. Son armure, une cotte de mailles trouée. Son épée était rouillée. Son bouclier cabossé. Et ses exploits, la risée du royaume entier. Jamais il n'avait sauvé de belles ou tué de dragons. Son père disait qu'il faisait honte à son nom. Mais un fils de noble se doit d'être chevalier. Il doit savoir manier l'épée, le bouclier, séduire toutes les belles princesses du royaume, tuer des dragons, être fier, être fort. Mais c'était pas vraiment son genre à Gérald. Lui, ce qu'il aimait, c'était voir les gens rire et danser. Il aimait jouer de la musique, chanter, s'émerveiller et vibrer. Mais bon, il s'était résigné. Et il parcourait le royaume en essayant de mériter son titre de chevalier et de faire le fier, faire le fort. Le jour où notre histoire commence, Gérald rentre d'une quête particulièrement éprouvante, où il a dû courir très 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 vite pour échapper à un dragon. Et il avance, le dos courbé, la tête baissée, sur son vieux cheval brun et flanqué, sur la route qui le mènera au prochain village où il pourra se reposer. Et tout à coup, face à lui, surgit un immense château. Il aurait juré que l'instant d'avant, il n'y avait rien qu'une plaine vide, mais là, une forteresse de pierres blanches et de diamants se dresse face à lui. Alentour, rien. Le silence règne. Le pont-levis de bois noble est baissé, comme invitant l'homme à entrer, et mène à de larges doubles portes finement ouvragées. Gérald fait avancer prudemment sa monture jusqu'aux portes, et là, il voit qu'une inscription est gravée. Ô toi humain qui ose franchir le seuil de ce château, sache que jamais ne ressortira sans avoir changé de peau. Gérald ne comprend pas franchement ce que ça veut dire, mais à peine a-t-il dit ces mots que les doubles portes de marbre blanc s'ouvrent en silence sur une grande cour pavée de pierres blanches. Gérald avance prudemment, et à peine a-t-il franchi le seuil que les doubles portes se referment dans un fracas assourdissant qui se répercute en écho dans l'ensemble du château. Le cheval, hennit, se cabre, envoie valser son cavalier et court vers les portes à travers lesquelles il passe. Sous les yeux ébahis de Gérald, qui peine à se relever.
Sponk, sponk.
Derrière lui, Gérald entend « Schponk ! Schponk !» Alors, il se retourne doucement et il se trouve face à un immense dragon avec le corps comme celui d'un éléphant, un long cou qui se termine par une tête de crocodile. Il a des écailles noires qui recouvrent tout son corps, des grandes ailes de chauve-souris. Ses yeux, rouges, flamboyants, fixent Gérald sans s'y aller. De la fumée sort de ses naseaux. Gérald... Tout doucement, lentement, puis il fait demi-tour et il court vers les portes contre lesquelles il s'écrase, se retrouvant sur les fesses. Une voix résonne alors.
« Oh, toi, humain, qui ose franchir le seuil de ce château, sache que jamais ne ressortira sans avoir changé de peau. Schponk. Schponk. »
Pendant ce temps-là, le dragon avance toujours.
Schponk. Schponk.
Alors Gérald, il rassemble tout son courage. De toute façon, il n'a pas énormément le choix. Alors il serre son épée rouillée dans sa main droite, son bouclier cabossé dans sa main gauche. Il se retourne et dans un cri de guerre, s'élance vers le dragon. Il se protège des flammes de son bouclier, fait un pas de côté et enfonce son épée dans le flanc de la bête. Enfin, il essaye, parce que son épée se brise. Le dragon tourne sa tête vers Gérald. Gérald, dans un réflexe, fait tinter le pommeau de son épée contre son bouclier, faisant un ting. Et il se passe plus rien. Alors, Gérald jette un œil et il voit que le dragon s'est arrêté. Ding, ding. Le dragon s'assoit.
Ding, ding, ding.
Le dragon penche la tête. Alors Gérald s'assoit face au dragon. Et il se met à jouer. Oh. Les yeux du dragon commencent à changer de couleur. Ils deviennent orange, puis vert, puis bleu. Les longues écailles noires qui recouvraient son corps s'affinent, s'éclaircissent et deviennent des plumes blanches. Les ailes de chauve-souris se couvrent elles aussi de plumes blanches. Et la tête de crocodile devient un bec. Le dragon est devenu un immense aigle blanc. Gérald s'arrête de jouer, mais l'aigle avance et donne un petit coup de bec sur le bouclier. Sting ! Comme pour inviter l'homme à continuer. Oh, oh, oh. L'aigle se met à danser Il me danse et il me tourne sur lui-même, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'on ne voit plus qu'une lumière blanche. L'aigle s'est arrêté de tourner. Et c'est plus un aigle. C'est une belle jeune femme, avec de longs cheveux noirs, des yeux bleus. Elle porte une robe blanche toute simple et elle lui sourit. Je m'appelle Aglia. Merci. Les doubles portes s'ouvrent en silence pour laisser sortir les deux jeunes gens qui ont changé de peau. Car depuis ce jour, Gérald n'est plus chevalier. Il est troubadour. Et avec Aglia, il parcourt le royaume. Lui, chantant et jouant de son instrument. Elle, dansant et virevoltant. Pour le plus grand plaisir des gens. De les voir rire et danser. De les voir vibrer et s'émerveiller. Osant être ce qu'ils voulaient. Et non ce qu'on leur demandait.
Merci beaucoup, Caroline. Alors, d'où nous vient cette histoire ?
Oh, mais d'où nous vient donc cette histoire ?
Bah oui, mais d'où vient cette histoire ? Je ne sais pas, moi.
Cette histoire, c'est une histoire que j'ai écrite suite à un concours. Le concours « Fais-moi un conte » de l'ASBL Philippeville-Suris, la Surisée en fait de Philippeville-Suris en Belgique. Ah, désolée, c'est parce qu'il y a beaucoup de mots en fait, les uns derrière les autres, alors j'ai du mal à les dire. Mais c'est un super conte, c'est un super, super concours, pardon, un super concours de contes, je vais réussir à le dire, désolée. Un concours d'écriture d'abord, donc où il faut écrire un conte original, qui ensuite passe devant un jury pour être sélectionné au niveau du texte d'abord, et ensuite trois séances de coaching intense avec Émile Esbois qui est juste génialissime. Et ensuite, un passage en live devant un jury qui va ensuite décerner les prix. Mais rien que l'aventure, déjà, est juste extraordinaire. Mmh. Donc je le conseille à tous ceux qui ont envie de faire du conte, que ce soit qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est vraiment une expérience très, très, très enrichissante.
Très bien. Alors toi, tu interviens régulièrement au musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq.
Alors, pendant la saison 2019, oui. Donc de avril à novembre, j'y étais donc trois fois par semaine. L'année prochaine, on va passer sur un autre format. Donc j'y serai moins souvent, mais j'y serai encore, je pense, de temps en temps. Avec, comme d'autres conteurs, en fait, qui viennent assez régulièrement... compter au musée.
D'accord. Donc là-bas, tu as fait en 2019, en tout cas, des visites guidées comptées, et puis tu as raconté des histoires le mercredi et le week-end.
Oui, c'est ça.
Voilà. On signale aussi que tu es illustratrice.
Oui.
On te connaît sous le nom de Caro Egano pour l'illustration. Donc d'ailleurs, on peut te retrouver sur un site caroegano.com. Et puis aussi sur Instagram.
Aussi.
Et ton sujet de prédilection, c'est la nature.
Oui, la nature et la beauté de la nature, la sagesse de la nature, et puis la beauté et la sagesse de la vie en règle générale.
Mmh. Et des événements annoncés prochainement
Prochainement, non. Pour l'instant, je me consacre plus à l'écriture en ce moment et à des projets qui sont... Enfin, ce n'est pas des projets grand public, en fait. C'est des projets dans des écoles, etc.
Oui.
Et ensuite, il y a des choses qui sont en train qui sont en discussion pour l'année prochaine, mais encore rien d'acté. Donc je ne dirai rien.
On peut rien dire. Ok, très bien. Bien, merci beaucoup, Caroline.
Merci.
Alors maintenant, eh bien, je vais me tourner vers Mathilde, van der Esten. Bonjour. Alors, on va peut-être orienter le micro. Voilà, c'est mieux. Et donc, toi, c'est la première fois que tu viens ici. Donc, tu nous viens de Lille.
C'est ça, de Lille, Fives, Lille et Lem.
D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je t'invite à nous raconter ton histoire et puis on discutera un petit peu après.
Ouais. Très bien. Tout a commencé par un grand bol de lait nourrissant et savoureux. La mère de Tony l'avait déposé avec précaution sur la table de la cuisine parce que le lait est rare sur l'île de Sardes. Et puis, elle a couru à la ville pour aller vendre ses œufs. Dans le silence de la maison, une souris ne tarde pas à s'approcher du bol. Tony ne l'entend pas. Tony dort. Et Tony dort toujours quand la souris s'agrippe, renverse le bol et s'applique à tout lécher le lait jusqu'à la dernière goutte avant de s'enfuir. Lorsque Tony se réveille et qu'il voit son bol vide, il se met à pleurer. Et du fond de son trou sombre, la petite souris, elle a honte d'avoir tout bu. Ben oui, le pauvre Tony, il n'a plus rien à manger et il n'y a personne pour le consoler. Alors, pour se faire pardonner, la petite souris décide d'aller chercher du lait, et elle s'adresse aux chèvres qui sont dans l'enclos à côté de la maison. Laquelle de vous remplira le bol de Tony qui s'est fait voler son lait par une affreuse souris ? Nous n'avons plus de lait, répondent les chèvres. On fera du lait que si nous n'en donne de l'herbe bien grasse. Alors, la petite souris court vers les champs arides de l'autre côté de la maison. On n'a plus d'herbe, répond la terre asséchée. L'herbe repoussera que lorsqu'on nous donnera de l'eau bien fraîche. Alors la souris file à la fontaine. Mais c'est plus qu'un tas de terre et de cailloux. La fontaine a été démolie par la guerre et laissée à sécher sous le soleil. La souris s'explique tout de même. Mais la fontaine a du mal à articuler sa réponse. « Je ne donnerai de l'eau que lorsqu'un maçon me reconstruira avec de belles pierres. » La souris file alors au pied de la plus haute et la plus ancienne montagne de Sardaigne. Et lorsqu'elle lui réclame de belles pierres pour reconstruire la fontaine qui donnera de l'eau, qui arroseront les prés, qui donnera de l'herbe que mangeront les chèvres, qui donneront du lait que boira Tony, une bouche béante s'ouvre à flanc de montagne. Ils m'ont tout pris, tout volé. Ils m'ont pris mes roches pour construire des routes étincelantes. Ils m'ont pris mes bois pour construire des tours et des prisons pour ceux qui n'étaient pas de leur avis. Ils m'ont pris mes oiseaux, mes animaux, les voraces pour les dévorer. Ils m'ont pris mes souvenirs pour amuser les imbéciles à la fin de leur festin. Avec leurs camions puants, ils ont emporté ma vie. Il ne me reste que quelques pierres pour me tenir encore presque debout. Mais pour combien de temps ? La souris se ressaisit.
Tant qu'un enfant existe, rien n'est perdu et j'en connais un.
Tais-toi, répond la montagne.
Cet enfant est pauvre, mais il a du cœur.
Cela ne suffit pas, petit rongeur de malheur.
Mais il a de l'émotion, je l'ai vu. Et il a des amis, je les ai entendus.
Comment croire une souris quand tous les humains m'ont trahi?
Cet enfant peut te redonner la vie. Et si je te mens, tu pourras t'écrouler sur moi de tout ton poids et m'engloutir tout au fond de la Méditerranée.
Alors, la montagne donne 6 pierres à la souris, qui va prévenir Tony, qui va prévenir le maçon, qui va prévenir ses enfants et tous leurs amis. Ensemble, ils dégagent la terre qui étouffait la fontaine. Ils reconstruisent un petit conduit et un bassin. Et voilà l'eau qui réapparaît. Ça dégouline, ça gargouille et ça éclabousse les mains des enfants. L'eau déborde du bassin et coule vers les prés. Les vieilles graines germent. Tout repousse, tout refleurit. Les insectes agitent l'air et les petits ruisseaux forment des lits qui accueillent les premiers poissons. Et voilà les chèvres qui broutent et qui font des siestes et qui boivent à l'ombre des premiers arbres. Elles font des chevreaux aussi qui sautent plus haut que les grenouilles. Avec sa mère qui n'en croit pas ses yeux, Tony et ses amis se régalent du bon lait des chèvres. Les chats et les souris en sont servis aussi. Tony et ses amis ont puisé suffisamment de force pour tenter de reboiser la montagne. Alors ensemble, ils creusent, sèment et plantent des arbrisseaux, des buissons. Les racines s'enfoncent et consolident le tout. L'ombre des premières branches protège les jeunes plants des rayons ardents du soleil. Tout reverdit, tout repousse à nouveau. La montagne, en reverdissant, fabrique des nuages de vapeur qui font du bien aux oiseaux attirés par la fraîcheur. Et les crottes des oiseaux viennent nourrir les premières fleurs que vient saluer la pluie. Les saisons ont passé. Tony a bien grandi. La montagne a retrouvé ses animaux, ses oiseaux et sa douceur de vivre. Au moindre bruit étrange, cependant, on entend un grand cri « Attention !» C'est la montagne, elle a tellement peur que les camions puants reviennent. Mais qu'elle ne s'inquiète. La vieille souris guette du haut du plus haut rocher de la montagne la route qui serpente dans la vallée. Et chaque jour, Tony vient rendre visite et nourrir son amie la souris. Et cette histoire se termine comme elle a démarré, par un grand bol de lait savoureux et nourrissant.
Merci beaucoup, Mathilde. Alors, toi, tu es apprentie conteuse, on va dire, à la création continue.
C'est ça, avec Emmanuel Grison.
Voilà, tu as créé la compagnie qu'on a déjà eue en interview ici à Radio Plus. Donc, toi, ça fait combien de temps que tu es avec Emmanuel?
Alors, ça fait depuis septembre 2016.
D'accord. Et comment tu es arrivée au conte? Comment tu as eu l'envie de faire du conte?
Alors, je pense que c'est une envie qui date de très, 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 très longtemps, peut-être même avant ma naissance, finalement, quand on y repense. Et puis, un jour, chez moi, j'attendais ma fille et je vois une affiche jaune sur une fenêtre, une maison toute jaune, celle d'Emmanuel, qui propose une formation au conte. Alors, je saute le pas très, très vite, vraiment. Et depuis, je n'arrête pas. Et à chaque occasion, quand Emmanuel a besoin ou propose des contes, j'essaye de répondre présente parce que...
Voilà, elle organise aussi des scènes ouvertes.
Oui, tout à fait.
Notamment au Polder.
Oui, c'est ça. Alors, le Polder, c'est un café citoyen à LM. Café coopératif citoyen LM avec qui propose des débats publics sur des sujets de notre société. Et on restitue les ateliers de contes une fois par trimestre. Et il y a aussi des scènes ouvertes de contes, une fois par trimestre aussi.
Voilà, d'ailleurs ce soir, Je connais plus l'horaire, ça doit être 20h. Il y a au bol d'air, on peut retrouver des apprentis conteurs, conteuses.
Oui, tout à fait. Ce soir, demain soir et vendredi soir également. Voilà.
Est-ce que tu as des thèmes de prédilection, toi, dans ce que tu racontes?
Alors, des thèmes, oui et non, c'est plutôt des auteurs. Mais sans que je cherche absolument à travailler des auteurs, mais il se trouve qu'à chaque fois que j'ai un coup de cœur pour un conte, c'est des auteurs italiens. Comme là, ce conte-là, c'est Antonio Gramsci, qu'il a écrit quand il était en prison, sous Mussolini. Il a écrit ce conte, qu'il a envoyé à sa femme pour que sa femme le raconte à ses enfants. Mais sinon, j'adore conter Italo Calvino.
Ok. Des choses à annoncer pour toi prochainement en spectacle?
Ah ben c'est surtout
en scène ouverte.
Oui, voilà, c'est surtout avec la création continue d'Emmanuel. Donc demain soir, il y a une restitution. Moi, je suis là vendredi soir au Polder. Et puis en janvier, il me semble, mais il faudrait retrouver sur le Facebook et l'adresse internet, donc le site internet de la création continue.
Voilà.
En janvier, il y aura des scènes ouvertes aussi. Et des ateliers à Roncq, il me semble.
Très bien. Eh bien
merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci à toi d'être venu. Alors, on se retrouve dans quelques instants avec Christophe Grimampon et peut-être Florence D'Argent, mais voilà. Et quelques petits soucis peut-être sur la route. Donc, je vous propose pour l'instant un petit intermède musical avec une chanteuse argentine qui s'appelle Loli Molina. Et le titre, c'est « L'eau azul ». Sobre mi. Voilà, c'était Loli Molina avec l'eau azul sobre mi. Et bien donc, je vous propose maintenant, il ne pouvait pas être avec nous, mais il nous a enregistré un petit conte. Il s'agit de Fabien Delhomme, qui nous vient de la région lensoise. Et donc on l'écoute tout de suite.
Il y avait un homme, un bûcheron. Et cet homme, il était veuf. Mais il vivait pas seul, hein, parce qu'il avait un fils de son premier mariage. Et depuis, il s'était remarié à une femme. Une femme qui était veuve, elle aussi, et qui avait eu une fille de son premier mariage à elle. Et tous les quatre, ils vivaient ensemble. Ils auraient pu vivre heureux, sauf que la femme, elle détestait son beau-fils. Elle le haïssait à un point inimaginable. Elle aurait préféré qu'il soit mort, même elle aurait préféré qu'il n'existe pas du tout. Et justement, un jour, il est rentré dans la maison. Il y avait juste la femme dans la maison, et le fils est rentré, et il a demandé « Maman, je pourrais avoir une pomme ?» La femme a détesté quand il l'appelait maman. C'est vrai quoi, c'était pas vraiment sa mère. Mais elle avait une idée derrière la tête, alors elle a dit oui. Elle a dit oui, et puis elle lui a montré le coffre où étaient rangées les pommes. C'était un gros coffre, bien lourd, avec un couvercle en acier qui pesait une tonne. Alors la mère, elle a soulevé le couvercle du coffre, et puis elle a dit à son beau-fils « Vas-y, prends une pomme, prends celles qui sont tout au fond, là, c'est les meilleures. Vas-y, penche-toi. » Et le garçon, il s'est penché pour prendre une pomme, et à ce moment-là, la mère, elle a relâché le couvercle. Blam! Ah bah le gamin, ça te l'a décapité d'un coup. Il y a son corps qui est tombé par terre, et puis il y a sa tête qui a roulé au fond du coffre. Et là, la femme, elle était un peu embêtée. Bah, ça l'a gênée, cette histoire, parce que à tous les coups, ça allait faire des histoires, ça allait retomber sur elle, et ça, elle en avait pas du tout envie. Alors elle a fait comme si de rien n'était. Elle a ramassé le corps et elle l'a posé sur une chaise. Elle l'a assis. Et puis elle a rouvert le coffre, elle a pris la tête, et elle a posé la tête sur le corps. Et puis bon, elle a pris un foulard, et puis elle a fait un nœud autour de son cou pour pas qu'on voie la plaie. C'était crédible, hein. À la limite, on avait l'impression que l'enfant, il était juste en train de dormir. Et puis là, elle a vu qu'il avait une pomme dans la main. Il avait réussi à prendre une pomme, et elle était dans sa main. Alors la mère, elle a essayé de reprendre la pomme. Elle a tiré sur la pomme, elle a essayé de desserrer les doigts, mais il n'y avait rien à faire. Le gamin, il gardait la pomme dans sa main. Et à ce moment-là, il y a la porte qui s'est ouverte. C'était la fille qui rentrait. Alors la femme, elle est venue voir la fille, et la fille, elle a demandé « Maman, j'ai faim, je pourrais avoir une pomme ?» Et là, la mère, elle a dit « Oh bah oui, ma chérie. Ben regarde, ton frère, il en a une dans la main. Demande-lui de partager. » Et là, la fille, elle s'est approchée du gamin, et puis elle est revenue vers sa mère en disant « Mais je comprends pas, il a l'air de dormir, il est tout bizarre, ça fait bizarre, et puis quand je lui demande, il répond pas. » Là, la mère, elle a dit « Oh bah écoute, il doit être en train de rêvasser. Mais je sais ce que tu vas faire. T'as qu'à lui mettre une grande claque, ça va le réveiller. » Et là, la fille, elle est retournée vers son frère, et elle lui a mis une grande claque. Et forcément, bah, il y a la tête qui est tombée par terre, et la fille, elle s'est mise à pleurer, et sa mère, elle a dit « Tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as fait? Tu l'as giflé beaucoup trop fort, regarde, à cause de toi, ton frère, il est mort !» Et là, la fille, elle s'est mise à pleurer de plus belle, et elle s'est jetée dans les bras de sa mère pour sangloter. Et la mère, elle lui a dit « Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va rien dire à papa. » Et là, la mère, elle a commencé à préparer une marmite, une grande marmite qu'elle a remplie d'eau, puis elle a commencé à faire chauffer, et elle a mis le corps et la tête du petit dedans. Et elle a commencé à préparer un ragoût. Alors, je vais pas vous donner la recette, mais bon, un ragoût, bah voilà, faut faire mijoter pendant plusieurs heures. Alors, elle a fait mijoter pendant plusieurs heures, et au bout de plusieurs heures, il y a le père qui est revenu, le bûcheron. Il est rentré, il revenait d'une séance de bûcheronnage qui avait duré toute la journée. Il était épuisé, il était éreinté, il rentre, et il dit il est où le petit ? Oh, la femme a dit, le petit, il est parti chez sa tante, tu sais, là, à l'autre bout du pays, il voulait absolument lui rendre visite aujourd'hui. C'est bizarre qu'il m'en ait pas parlé. Ah bah oui, c'est bizarre, qu'elle a dit la femme, et au même moment, elle a posé la casserole sur la table, la casserole où il y avait le ragoût. Et là, l'homme, il a dit, mais ça sent terriblement bon, mais il faut que je mange ça. Il a commencé à prendre un morceau, c'était tellement bon, il a englouti le morceau, et il a jeté l'os par terre, il a repris un morceau, il l'a englouti aussi, il a jeté l'os par terre, et il a englouti tout le ragoût comme ça. Et pendant que son père y jetait les os, la fille, elle les a ramassés les os, et puis elle les a mis dans un foulard. Et à la nuit tombée, elle est sortie, et puis au pied d'un arbre qui était dans la cour, elle a enterré les os de son frère, et elle est partie se coucher. Et là, au milieu de la nuit, il y a l'arbre au pied duquel il était enterré qui s'est mis à scintiller. Et à l'intérieur de l'arbre, il y a un oiseau qui est apparu, un tout petit oiseau. Le tout petit oiseau, il était perdu, il ne savait pas où il était. Il a réfléchi, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, ça y est, je suis un oiseau, mais avant, j'étais un garçon. J'étais un petit garçon et il y a ma mère qui m'a tué. Et puis après, il y a mon père qui m'a mangé. Et il y a ma petite sœur qui a ramassé et qui m'a enterré. Mais maintenant, je suis un oiseau. Et il s'est envolé. Il s'est envolé en chantant, il s'est dirigé vers le village qui n'était pas très loin. Et arrivé au village, il s'est posé sur le bord de la fenêtre d'une maison. Cette maison, c'était l'échoppe du cordonnier. Il s'est mis à chanter sur le bord de la fenêtre. Et là, le cordonnier, il a ouvert la fenêtre et il a dit « Oh, le petit oiseau, dis donc, qu'est-ce que tu chantes bien? Écoute, j'ai envie de te faire un cadeau, c'est bientôt Noël. » Et le cordonnier, il a pris une paire de souliers et il l'a accroché autour du cou du petit oiseau. Et le petit oiseau, avec sa paire de souliers autour du cou, il s'est envolé et il s'est dirigé vers une autre maison. Et s'est posé sur le bord de la fenêtre. Et cette maison, c'était la boutique de l'horloger. L'oiseau, il s'est mis à chanter et l'horloger, il a ouvert la fenêtre et il a dit « Dis donc, le petit oiseau, qu'est-ce que tu chantes ? J'ai envie de te faire un cadeau parce que c'est bientôt Noël. » L'horloger, il a mis une montre autour du cou du petit oiseau. Et le petit oiseau, avec sa paire de souliers et sa montre autour du cou, il s'est envolé. Il s'est envolé jusqu'au moulin. Et là, il s'est posé sur le bord de la fenêtre du moulin et il s'est remis à chanter. Là, il y a le meunier qui a ouvert sa fenêtre et qui a dit « Oh, dis donc, le petit oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien ? Eh, moi, j'ai envie de te faire un cadeau parce que c'est bientôt Noël. Tiens, prends cette meule en pierre de 4 tonnes et demie. » Et là, le meunier, il a mis une meule de 4 tonnes et demie autour du cou du petit oiseau. Et le petit oiseau, avec sa paire de souliers, sa montre et sa meule en pierre de 4 tonnes et demie, il s'est envolé. Il est retourné vers sa maison. Une fois arrivé, il s'est mis à volter dans la cour. Et il continue à chanter. Et à un moment, il y a le bûcheron qui est sorti et qui a dit « Dis donc, le petit oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien ?» Et à ce moment-là, il y a la montre qui est tombée au pied du père. Et le père, il était content parce que il en avait bien besoin d'une nouvelle montre. Et le petit oiseau, il a continué à chanter. Et à ce moment-là, il y a la fille qui est sortie et qui a dit « L'oiseau, qu'est-ce que tu chantes bien ?» Et il y a la paire de souliers qui est tombée au pied de la fille. Et la fille, elle était contente parce qu'elle en avait vraiment besoin d'une nouvelle paire de souliers. Et l'oiseau, il a continué à volter et à chanter. Et au bout d'un moment, c'est la femme qui est sortie. Ah mais elle, ça lui plaisait pas du tout le chant de l'oiseau. Elle était là, mais qui c'est qui crie ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces bruits ? C'est insupportable ! Et à ce moment-là, bah, il y a la meule de 4 tonnes et demie qui est tombée sur elle. Et à cet instant précis, l'oiseau a disparu et il y a le petit frère qui est réapparu juste à côté de son père et de sa sœur. Et ils ont vécu heureux tous les trois. Et la belle-mère, bah, elle est toujours sous sa meule en pierre. Hein. Et puis très franchement, bon débarras.
C'était Fabien Delorme. Et donc Fabien, ben pour les fidèles de cette émission, eh bien vous le connaissez puisque il animait la chronique Le Relevé de Conteur et aussi la chronique Polar, La Crème du Crime, qui est reprise là par Patrick Vaste. Fabien Delorme, vous pouvez le retrouver sur un site internet fabiendelorme.fr et puis il est également sur Facebook et Twitter. Voilà, et puis aussi il fait du théâtre d'impro, vous pouvez le voir dans la région également à l'occasion de ses prestations. Voilà, alors Florence D'Argent n'a pas pu être avec nous là ce matin. Donc, on a des enregistrements ici à Radio Plus. On va vous passer, pas Florence D'Argent. Vous la retrouverez en janvier pour sa chronique Le Relevé de Conteur, le 8 janvier, oui. Et puis, là maintenant, on va vous passer une autre conteuse qui s'appelle Élodie Mora.
Ça commence au tout début où il n'y avait rien. Absolument rien. Juste l'obscurité, le néant. Et au milieu de tout ça, il y avait le grand esprit qui dormait. Il dormait et dans ce sommeil sans image, il a fait un premier rêve. Il a rêvé la lumière. Et c'est comme ça que la lumière est arrivée. C'était le tout premier rêve, au tout début. Et la lumière, quand elle arrivait, elle était toute petite. Aussi grande qu'une flamme d'allumette. Elle était là, au milieu de rien. Lumineuse. Elle respirait la lumière. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait bouger. Elle est partie un peu à droite, un peu à gauche, et elle a voyagé dans le néant. Elle a voyagé avec une fulgurance étonnante. Elle fusait, elle partait dans tous les sens. Et cette lumière, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait grossir, 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 devenir aussi petite qu'une étincelle. Elle a passé du temps comme ça, dans cette éternité, à vivre. Et puis au bout d'un moment, la lumière, elle a cherché à se réaliser. Elle voulait devenir ce qu'elle devait devenir. Elle ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, mais elle a cherché. Et sur son chemin, la lumière, elle est devenue soleil. Elle est devenue éclair. Elle est devenue feu. Elle est devenue... Elle est devenue la transparence. Tout au bout de son chemin, c'était la transparence. Et la lumière, elle s'est sentie régner. Et c'est comme ça que la transparence a régné dans l'univers pendant un temps infini. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait quelque chose au fond de cette transparence. Quelque chose qui grignote, quelque chose qui gratte, quelque chose qui s'appelle le désir d'autre chose. La transparence qui était si légère, elle rêvait d'être lourde, d'être grosse, d'être lourde. La transparence a fait un rêve. Elle a rêvé le caillou. C'était le deuxième rêve. Et le caillou est apparu. Il est arrivé et il a commencé à dégarouler dans tous les sens, dans ce néant, dans ce rien. Il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, le caillou, eh ben, il fallait bien qu'il devienne quelque chose. Alors, le caillou, il a cherché ce qu'il devait devenir. Il a marché sur son chemin et le caillou est devenu montagne. Le caillou est devenu sable, marbre, pierre précieuse. Et il a continué de chercher le caillou. Et au bout de son chemin, il avait trouvé. C'était le cristal. Et le cristal a régné. Il jouait avec la lumière pendant une éternité. Ça faisait des faisceaux d'arc-en-ciel partout. C'était d'une beauté. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait quelque chose qui gratte au fond du cristal. Quelque chose qui le démange, le désir d'autre chose. Le cristal qui était si dur, si angulaire, il rêvait la vulnérabilité, la fragilité. Et le cristal, un jour, a fait un rêve. Il a rêvé la fleur. C'était le troisième rêve. Et c'est comme ça que la fleur a percé l'écorce de la terre et a poussé, fragile. Elle a ouvert ses pétales sur le monde. Et c'est comme ça que le monde s'est recouvert de toutes les fleurs, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Imagine un peu un monde recouvert de fleurs. C'était beau. Et la fleur, elle a aussi cherché son chemin. La fleur, elle a cherché à se réaliser. Oh, elle ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Mais elle a fait le premier pas sur ce chemin pour chercher. C'est comme ça que la fleur est devenue liane. Elle est devenue algue. Elle est devenue buisson. Elle est devenue ronce. Et elle a continué de chercher. Et le monde s'est recouvert de plantes différentes jusqu'à ce qu'elle trouve au bout de son chemin ce qu'elle devait devenir. Et c'était l'arbre. Et l'arbre a régné sur le monde. Avec ses racines plantées dans la terre et ses branches dans les nuages, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire d'autre que rêver. Et l'arbre a rêvé. Il a rêvé de pouvoir parcourir le monde. C'était le quatrième rêve. L'arbre a rêvé le ver de terre. Et le ver de terre est arrivé sur terre. Il a parcouru le monde. Il a parcouru les odeurs, l'herbe, les fleurs. Il a même creusé des galeries. Il a parcouru les entrailles de la terre. Et puis au bout d'un moment, le ver de terre, il est ressorti. Et moi aussi, je veux me réaliser. Moi, je veux aussi, je veux savoir ce que je dois devenir. Et le ver de terre a commencé. Il a commencé pas à pas sur sa route pour savoir ce qu'il allait devenir. Et il est devenu d'abord serpent. Il est devenu chat, chien, chèvre. Vache, il est devenu lion, il est devenu rhinocéros, il est devenu éléphant, girafe. Et le monde s'est peuplé d'animaux, de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes. Et au bout de ce chemin, le ver de terre avait trouvé. C'était la baleine. La baleine a régné sur le monde. Cette montagne de musique a bercé le monde de son chant pendant une éternité. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui a gratté au fond de la baleine. Quelque chose qui l'a démangé, quelque chose de plus fort. Ça s'appelle le désir. La baleine, elle qui était fondue entièrement dans le monde, elle a rêvé de pouvoir le parcourir, libre. La baleine a fait un rêve, c'était le cinquième rêve. Et tu sais ce qu'elle a rêvé, la baleine? Elle nous a rêvé, nous. hommes, femmes, enfants. Elle a rêvé les humains. C'est comme ça que les humains ont peuplé la Terre. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, l'humain est arrivé dans le monde par le rêve d'une baleine. Et on a tout fait. On a tout essayé. On a fait la guerre, on a fait la paix. On a essayé toute forme de travail, toute forme de révolution, toute forme de vie. Et puis on est là, l'humanité, au bord de ce chemin. On est là, juste devant ce chemin, à savoir ce qu'on va devenir. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est rêver. C'est rêver ce qu'on peut devenir pour s'accomplir, pour aller au-delà, pour se réaliser. Alors imagine un peu, si dans la transparence, il y a tous les jeux de lumière, si dans un cristal, il y a cette transparence qui dort, si dans un petit caillou, il y a tout ce cristal, si derrière une petite fleur, il y a un arbre qui se cache, et si dans chaque ver de terre, il y a une baleine qui sommeille. Dans le petit caillou que tu croises là, ce matin, en marchant, en allant au travail, à l'école, n'importe où, il y a un cristal qui dort. Imagine bien ce qu'il peut y avoir en chacun de nous. Pour ça, il suffit de fermer les yeux, de voir autrement. Pour ça, il suffit peut-être d'avoir le courage et l'audace de rêver quelque chose de plus grand et de plus beau.
Voilà, c'était Élodie Mora avec le cinquième rêve. Alors Élodie Mora a plusieurs spectacles à son actif, notamment Barbe Blues, Moby Dick. Elle fait aussi du spectacle intime, on va dire, voilà, des petites scènes, le Minus Théâtre. Alors, vous pouvez la retrouver sur un site internet, ça s'appelle donc elodimora.com pour vous tenir au courant de toute son actualité et vous informer sur ses spectacles. Alors, bien donc, cette émission se termine. Merci à tous nos invités, merci à Manuela Yabas, à Jean-Yves Vincent, à Liliane Tillois, à Christophe Grimont-Pont, à Florence Argent, voilà, donc on la retrouve à la rentrée, voilà, donc elle est excusée, et puis Caroline, merci également. Merci à Mathilde Van der Risten et merci également à Fabien Delorme. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h et également mercredi prochain, mercredi 25 décembre, à 9h et 20h. Le podcast devrait être en ligne dans la journée. Nous, on se retrouve le 8 janvier. À 9h pour un nouveau numéro de La Vie des Livres. On recevra la directrice et le sous-directeur de la bibliothèque municipale de Liévin pour le marché aux livres de Liévin qui aura lieu le troisième samedi, donc le 18 si je me souviens bien, le troisième samedi de janvier. Et puis il y aura la chronique également de Patrick Vast, voilà pour le programme. Et puis bien sûr la chronique de Judith Aragonès sur la Catalogne del Sud. Voilà, donc on se quitte en musique avec M et Fatoumata Diawara. Et le titre, c'est un titre en live, ça s'appelle Une âme. À bientôt. Maubena, Kube, Benne, Aranyeni, Levi.
Alors tu seras mon apparition. Monte en moi cette sensation. Je me sens libre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme, juste une âme, une âme. Une âme, 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 une âme. Pour toutes les âmes de ma vie, au-delà du sexe d'un amour surex, je voudrais du vrai. Pas que la vérité, mais toute cette tendresse comme une caresse ensemble. Une âme, une âme, une âme, une âme, une âme, une âme, une âme. Allez tous ensemble. Une âme, une âme, une âme, une âme. Muntaga Diabaté.
I'm gonna take it.